Vincent Dublange, à tout à l'heure, RFI Matin continue. Et dans moins de 20 minutes, à présent, le journal, les témoignages des Palestiniens qui ont quitté par centaines hier le camp de Jenin en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne poursuit son opération qui a tué 12 personnes depuis mardi. Vous entendrez Sami Bourlifa, mais tout de suite les sports. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Julien.
En football, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel. Omar Marmoush quitte l'Allemagne et l'Eintracht Francfort pour...
le Manchester City de Pep Guardiola. Un gros coup dans ce mercato hivernal. Le prolifique attaquant égyptien a choisi de passer un cap dans le championnat le plus relevé de la planète. Il s'est engagé pour 4 ans et demi jusqu'en 2029 et City a déboursé entre 70 et 80 millions d'euros pour le faire venir et le voir évoluer aux côtés d'Erling Haaland. Baptiste Leduc, Omar Marmoush, c'est l'archétype de l'attaquant moderne qui rejoint la Première Ligue.
Y a-t-il une chose qu'Omar Marmoush ne sache pas faire ? Marquer, c'est devenu sa spécialité. Encore méconnu la saison dernière, l'Égyptien ne s'arrête plus de planter. 20 buts en 26 matchs, dont 15 en championnat, seul Harry Kane fait mieux en Bundesliga. Faire jouer ses partenaires, pas de problème non plus. Le Pharaon est le meilleur passeur du championnat allemand avec 9 caviars distribués. Ces 3 coups francs marqués en une semaine en novembre ont aussi fait d'Omar Marmoush un des joueurs les plus redoutables de la planète sur coup de pied arrêté. Une palette si large attire l'attention et c'est donc à Manchester City qu'il a choisi de poursuivre son ascension fulgurante. Habitué à briller dans un système à 2 attaquants à Francfort, où sa complicité avec le français Hugo Ekitike a fait merveille, Omar Marmoush arrive cette fois dans une équipe où le poste d'unique numéro 9 est occupé par Erling Haaland, qui a prolongé chez les Sky Blues jusqu'en 2034 et risque de faire un peu d'ombre à l'Égyptien. S'imposer au pays de son compatriote Mohamed Salah sera un défi de taille à la hauteur du talent d'Omar Marmoush.
Omar Marmoush qui est la troisième recrue des Sky Blues dans ce mercato hivernal et également le premier joueur égyptien à rejoindre l'effectif mancunien. Après sa lourde défaite 4-2 mercredi face au PSG en Ligue des Champions, Manchester City retrouve la Première Ligue demain, 23e journée. Les hommes de Pep Guardiola, 5e, accueillent Chelsea, 4e. Un gros choc en perspective.
Le handball à la une également, deuxième match du tour principal du Mondial masculin 2025 à Zagreb pour 2 nations africaines placées dans le même groupe mais aux situations très différentes.
Oui, si l'Égypte va affronter la Slovénie après une défaite contre l'Islande, mais qui reste toujours bien placée dans la course à la qualification pour les quarts de finale, c'est une équipe du Cap-Vert au bord de l'élimination qui retrouve l'Argentine tout aussi mal en point. Une deuxième victoire dans cette compétition après celle obtenue contre la très faible équipe de Cuba est loin d'être acquise, mais le sélectionneur capverdien Jorge Rito ne s'avoue pas vaincu d'avance.
Je pense que nous pouvons gagner, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile. J'ai vu le match de l'Argentine contre la Slovénie et je peux dire que c'est une équipe qui joue bien au handball, une équipe de combattants. Il faudra avoir un peu de tout dans cette rencontre. Une bonne attitude, de l'ambition, un bon plan de jeu, savoir aussi contrôler nos émotions parce que nous sommes tout près de faire mieux que lors de notre dernière participation. Être arrivé jusqu'au tour principal n'est pas une fin en soi. Si nous donnons un peu plus encore, si nous faisons cet effort supplémentaire, nous pourrions obtenir un résultat historique.
Jorge Rito avec Marco Martins. Les horaires des matchs, Argentine-Cap-Vert 14h30 TU, suivi d'Égypte-Slovénie à 17h TU.
Enfin, un mot de basket avec 2 matchs de NBA délocalisés à Paris. Une double confrontation entre les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers.
Le premier a eu lieu hier soir à l'Accor Arena de Paris. Les Lakers de Victor Wembanyama ont eu la tâche facile face au Camerounais Pascal Siakam et ses coéquipiers des Indiana Pacers. Score final 140-110. Les deux équipes jouent à nouveau demain. Match à 17h TU à Paris toujours.
Florence Valmé, merci beaucoup.
RFI, toute l'actualité. Julien Coquel-Rohem.
Un premier revers pour Donald Trump aux États-Unis. Un juge fédéral suspend la remise en cause du droit du sol ordonné par le président américain lors d'un décret signé le jour de son investiture. Mesure jugée contraire à la Constitution par ce magistrat. Probable premier épisode d'une longue bataille judiciaire. Donald Trump dit vouloir faire appel. Il ordonne par ailleurs la déclassification complète des archives du gouvernement américain sur les assassinats l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert Kennedy en 68, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King. Et puis c'était une promesse de campagne, l'expulsion de millions de sans-papiers. Les premiers raids ont commencé hier et de l'autre côté de la frontière, le Mexique anticipe ses expulsions. Une dizaine de refuges sont en construction dans le nord du pays. À la une également, des centaines de Palestiniens ont quitté hier le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée au troisième jour d'une opération de l'armée israélienne baptisée Mur de Fer. Elle a fait au moins 12 morts depuis mardi. Et puis deux Français, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Coralie Farja pour The Substance, en lice pour l'Oscar du meilleur réalisateur. La prestigieuse cérémonie du cinéma américain a révélé sa liste de nominations hier. Emilia Pérez nommée dans 13 catégories records aux Oscars pour un film dans une autre langue que l'anglais. C'est dans moins de 3 mois au Gabon, on l'a appris ce mercredi, c'est donc le 12 avril que se tiendra la présidentielle pour amorcer le retour à un régime civil dans le pays, près de 2 ans après le coup d'état militaire du 30 août 2023. Que fera celui qui a renversé la dynastie Bongo et qui dirige le Gabon depuis, le général Brice Clotaire Oligui Nguema? Sera-t-il candidat à ce scrutin? Et si oui, trouvera-t-il en face de lui des poids lourds de l'opposition? Bergès Mietté est enseignant-chercheur à l'Université internationale de Libreville, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Il est notre grand invité Afrique ce matin avec Christophe Boisbouvier.
Bergès Mietté, bonjour.
Bonjour.
Le 8 janvier dernier, 4 figures de l'opposition, dont le professeur Albert Ondo-Ossa et l'ancien premier ministre Billy Binze, ont exigé une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, de se porter candidat aux prochaines élections. Mais est-ce que le code électoral ne prend pas le contre-pied de cette demande?
Oui, tout à fait, puisque le nouveau code électoral dit que désormais, les militaires, comme tous les autres citoyens de la République peuvent prétendre à des fonctions politiques électives. Donc, lorsque les principaux leaders de l'opposition dont vous citez ont appelé les militaires, en réalité ont appelé Brice Clotaire Oligui Nguema à ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle à venir, c'était simplement un appel pour que le président tienne les engagements qu'il a pris à l'égard du peuple gabonais au moment du coup d'État, puisque officiellement, lui-même, il avait déclaré qu'il devrait, à l'issue de la transition, rendre le pouvoir aux civils. Je pense que c'est surtout sur cet aspect là que ces leaders-là se sont prononcés.
Donc au terme du nouveau code électoral, le général Oligui Nguema, s'il le décide, va pouvoir se présenter le 12 avril prochain. Comment va réagir l'opinion publique gabonaise par rapport à la promesse qu'il avait faite le 30 août 2023?
Je pense qu'il ne fait aucun doute que le général briguera la magistrature suprême. C'est que l'opinion gabonaise attend davantage, c'est la capacité du président de moderniser le pays. Est-ce que Oligui Nguema, il est capable, mieux que le régime précédent, de transformer le pays, de répartir équitablement les ressources du pays de manière à ce que tous les Gabonais puissent en profiter? Je pense que la vraie question, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si les leaders de l'opposition estiment qu'ils ont la capacité de porter et de réaliser ce projet-là, je pense qu'ils ont tout à gagner à se porter candidat à l'élection présidentielle, de sorte que le meilleur l'emporte.
Mais si l'opposition fait campagne contre le fait qu'un militaire soit candidat, vous pensez que ça n'aura pas beaucoup d'écho dans la population gabonaise?
C'est vrai que depuis quelque temps, l'euphorie qui accompagnait le coup de libération entre guillemets s'est plus ou moins estompée. Certains Gabonais deviennent de plus en plus critiques à l'égard des nouvelles autorités. Qu'à cela ne tienne, Oligui Nguema a encore des soutiens au niveau national et globalement, je pense que beaucoup parmi les Gabonais ne verraient aucun obstacle à ce que Oligui Nguema puisse se porter candidat à l'élection présidentielle.
Alors pour cette élection du 12 avril, les conditions d'éligibilité sont très restrictive. Est-ce qu'il restera des leaders de l'opposition qui seront éligibles?
Oui, les nouvelles autorités se sont employées plutôt avec maestria à neutraliser l'opposition traditionnelle, si bien qu'aujourd'hui, si la candidature d'Oligui Nguema ne fait plus de doute, la vraie question, me semble-t-il, est de savoir face à qui il sera opposé le 12 avril prochain.
Et justement, qui sont les leaders actuels de la classe politique gabonaise qui ne seront ni trop vieux, ni binationaux, ni enfants de parents pas gabonais, ni mariés à un conjoint ou une conjointe pas gabonaise? Qui pourra se présenter?
Je pense que c'est le vrai enjeu, effectivement. Ce scrutin sera-t-il réellement compétitif ou alors il sera question d'un match amical, sans doute entre le général et un opposant des circonstances ou quelqu'un sans réelle envergure?
Et parmi les opposants éligibles, éligibles, faut-il envisager que certains décident de boycotter ce scrutin ?
Oui, sans doute. C'est possible puisque c'est un phénomène qui est quelquefois récurrent au Gabon.
À quelles conditions cette élection sera-t-elle transparente le 12 avril ?
On se souvient que la transition intervient à l'issue des élections générales de 2023, dont les résultats ont été jugés frauduleux par les militaires. Donc ils ont pris le pouvoir pour restaurer la dignité des Gabonais et les institutions de la République qui ont été mises à mal par l'ancien régime. Et je pense que ce scrutin-là, c'est un test.
Alors, vous évoquez le problème de la transparence des élections. Si elles restent organisées par le ministère gabonais de l'Intérieur, est-ce que cela ne va pas jeter la suspicion sur leurs résultats ?
Désormais, au Gabon, le ministère de l'Intérieur est le principal organisme de gestion des élections. Certains doutent la capacité du ministère de l'Intérieur d'organiser de manière démocratique des élections à venir, mais je pense qu'il est trop tôt pour faire ce procès-là. On attend voir comment est-ce que, de manière pratique, les élections à venir seront organisées.
Bergès Mietté, merci.
Le chercheur Bergès Mietté, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Et comme chaque matin de la semaine, un œil sur l'actualité des matières premières et sur le marché du sucre. Aujourd'hui, après avoir été quasi absente l'an dernier, l'Inde revient dans le jeu en libérant 1 million de tonnes de sucre à l'exportation. L'annonce a fait baisser les cours de manière même un peu démesurée, Marie-Pierre Olfin.
L'Inde devrait donc mettre 1 million de tonnes de sucre sur le marché dans les prochains mois. C'est beaucoup plus que l'année dernière, mais moins que les 11 millions de tonnes d'il y a 3 ans. Et finalement, assez peu pour un marché global du sucre sur lequel chaque année 70 millions de tonnes sont échangées. Mais la nouvelle n'en a pas moins ébranlé le marché et tiré les cours à la baisse. Ils ont atteint leur plus bas depuis 3 ans et demi pour le sucre blanc et leur plus bas depuis le mois d'août dernier pour le sucre roux. Une baisse qui illustre pour Timothée Masson, secrétaire général de l'Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre, la forte volatilité et la tension qui règne sur le marché. Les cours auraient en quelque sorte chuté de manière artificielle sous la pression de spéculateurs. Ils se sont positionnés en masse en effet ces derniers jours sur le marché du sucre en achetant et en vendant du sucre qu'ils n'ont pas physiquement et en vendant même beaucoup plus que ce qu'ils ont acheté, comme s'ils anticipaient de gros volumes disponibles à l'exportation d'ici plusieurs semaines. L'impression d'abondance qu'ils donnent fait elle-même baisser les prix et comme souvent, quand les cours commencent à dévisser, c'est l'engrenage. Mais un rattrapage n'est pas à exclure car même si la force du dollar pousse les agriculteurs brésiliens à exporter du sucre plutôt qu'à le transformer en éthanol pour le marché domestique, aucun excédent n'est annoncé dans le secteur. On est même sur une campagne plutôt à l'équilibre, voire déficitaire. Cette impression d'avoir beaucoup de sucre sur le marché donnée par la baisse des cours ne serait donc qu'une fausse perspective difficile à décrypter et qui peut avoir des conséquences importantes pour les agriculteurs. C'est en effet dans les prochains jours et dans les prochaines semaines que les betteraviers français, allemands, polonais, russes ou encore ukrainiens doivent décider à la lumière des cours mondiaux actuels quelle surface ils cultiveront cette année.
Marie-Pierre Olfin pour les matières premières. Serait-il dangereux d'utiliser son téléphone portable à côté d'une bouteille de gaz dans les dessous de l'Infox cette semaine? Coup de projecteur sur une croyance populaire très ancrée, notamment sur le continent africain. Elle réapparaît régulièrement au gré des différents faits divers. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour.
Ces derniers jours, justement, une vidéo partagée sur des groupes WhatsApp affirme montrer à tort une famille victime d'une explosion de gaz liée à l'utilisation d'un smartphone.
Pour le savoir, nous avons d'abord cherché à la géolocaliser en s'appuyant sur une plaque d'immatriculation visible sur un véhicule. La combinaison des chiffres et des lettres et les éléments graphiques correspondent aux plaques de l'état de Rivers dans le sud du Nigeria. En faisant une recherche avec les mots-clés « gaz »,« explosion » et « Rivers », on retrouve bien la trace de cette vidéo dans la presse nigériane. On y apprend que ces images font suite à une explosion mortelle le 4 janvier dernier chez un vendeur de gaz à Port Harcourt dans le quartier d'Oroasi, ce que nous a confirmé notre rédaction à Lagos.
Alors voilà, ça c'est ce qui vous a permis d'identifier cette vidéo, d'où elle venait, ce qu'elle racontait. Cette explosion est-elle liée à l'utilisation d'un téléphone portable ?
Non, selon plusieurs témoignages, un homme aurait tenté de souder une bouteille de gaz qui fuyait, provoquant involontairement une explosion en chaîne. Le dernier bilan fait état de 5 morts et plus d'une dizaine de blessés. La légende qui circule sur WhatsApp est donc mensongère.
Mais sur le fond, Grégory, est-ce que c'est dangereux d'utiliser son téléphone portable à côté d'une bouteille de gaz ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser comment se produit une explosion. Concrètement, pour qu'il y ait une atmosphère explosive, ce que les experts appellent une apex, il faut un combustible, un gaz par exemple, et un comburant, l'oxygène de l'air. Dans certaines proportions, le mélange peut exploser, mais il faut encore une source d'inflammation, une étincelle ou une flamme par exemple. Olivier Cotin est le responsable de l'unité atmosphère explosive APEX à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques.
Si les conditions sont normales, c'est-à-dire que la bouteille est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de danger immédiat à utiliser son téléphone à proximité de cette bouteille. Il faudrait donc, pour qu'il y ait un danger, un risque, il faudrait qu'il y ait effectivement une fuite. Et là, on pourrait effectivement, dans un milieu confiné, créer une apex.
Pour qu'une explosion se produise, il faut donc une fuite de gaz et un téléphone dysfonctionnel, puisqu'un smartphone en bon état ne génère ni chaleur excessive ni étincelle. Le risque zéro n'existe pas, mais si votre bouteille de gaz ne fuit pas et que votre téléphone fonctionne correctement, vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Ça va mieux en le disant. Grégory Genevrier pour les Dessous de l'Infox, merci beaucoup. Et sur RFI, le journal, dans une minute. À tout de suite.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Alors n'hésitez plus à participer à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Plus que quelques jours pour candidater sur App Afrique, appafrique.rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.
Majrou Sultan Puri et Hervé Gourmand. Clou.
À l'évidence, on ne se connaît pas. C'est ni de chance ou d'une seule fois. À l'évidence.
RFI Musique.